Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Studio ZEF dans la Chose Commune. Vous écoutez votre magazine hebdomadaire qui parle de développement durable, d'écologie et d'environnement. Et cette semaine, alors que la COP28 à Dubaï a commencé il y a quelques jours, on en parle justement avec mes trois invités. Suzelle, bonjour.
Bonjour.
Estelle, bonjour.
Bonjour.
Et Abel, bonjour.
Bonjour.
Tous trois donc mobilisés autour de cette COP pour parler des enjeux, des problèmes que cette COP soulève, évidemment, cette COP28 soulève, et puis de tout ce qui tourne autour de ce sujet. Donc merci d'être en studio avec nous. On va d'abord reposer le contexte. Alors qu'est-ce que la COP, pour ceux qui découvriraient le principe? Est-ce qu'on peut remettre un peu de contexte sur ce grand raout écologique qui a lieu tous les ans à cette période de l'année? Qui se lance?
La COP, ce sont des pays qui se réunissent pour réfléchir, enfin pour faire des constats sur le climat, le dérèglement climatique, et qui cherchent ensemble des solutions. Ça, c'est la théorie. La première COP, elle a eu lieu à Berlin. À l'époque, il y avait moins de 2000 délégués observateurs. Et là, on en est à la COP28. Donc, ça fait 28 ans qu'on fait les COP. Ça n'a pas beaucoup changé. À Dubaï, et là, on a 70 000 personnes qui sont attendues. Qui viendront tous à vélo ou à pied, bien sûr.
Au Moyen-Orient. Donc, effectivement, c'est la COP28 qui a lieu à Dubaï. En quoi cette année-là, cette COP-là, pose problème?
Oui, moi, je vais bien répondre. Pour moi, ça pose problème parce qu'effectivement, cette COP, elle a lieu à Dubaï, donc les Émirats Arabes Unis, avec pour président de la COP... Sultan Al-Jaber, qui n'est autre que le PDG de la compagnie pétrolière du pays. Voilà. Donc, moi, je me dis, on n'inviterait pas des marchands d'armes pour faire des négociations pour la paix. Et en fait, on invite des PDG pétroliers pour négocier du climat, alors qu'on sait que, justement, c'est les énergies fossiles qui nous plombent particulièrement le climat. Voilà.
Après le Qatar, je voyais en 2012, donc voici les Émirats Arabes Unis. Alors pour me faire un peu l'avocat du diable, et même si ça soulève certains problèmes que vous avez soulevés, est-ce qu'on n'a pas besoin que ces pays-là aussi s'imposent sur ces sujets-là, deviennent des pays qui posent des questions ou qui posent les enjeux sur ces sujets-là? Ou est-ce que définitivement les pays producteurs de pétrole ne sont pas les bienvenus à la table des négociations autour des COP?
On a quand même besoin que ces pays soient là parce que c'est des pays producteurs de pétrole, et comme l'a dit Suzelle, le pétrole et les énergies fossiles, c'est un des plus gros problèmes. Donc il faut qu'ils soient là parce que c'est notamment dans leur pays que se passent les extractions. Et si eux, ils prennent des mesures pour diminuer fortement le pétrole, ça aurait un impact sur la planète et un impact favorable.
Donc l'idée est d'être, en tout cas pour les militants que vous êtes, l'idée est d'être en position de leur signifier qu'il faut qu'ils aillent dans le sens de l'arrêt de la production de pétrole. C'est ça l'idée que vous défendez, vous, en fait, oui. C'est ça?
Exactement.
Ouais. Et est-ce que c'est probable que ça arrive dans un futur proche?
Pas du tout. Déjà, il faut dire que les Émirats Arabes Unis, c'est quand même c'est le pays le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde.
D'accord.
Le plus grand consommateur d'eau au monde.
À cause quand de même... l'extraction de pétrole, entre autres,
à cause de leur mode de vie.
Ouais.
Ils ont la climatisation poussée à fond.
Oui.
Ils ont même mis du ski dans le désert. Enfin, c'est ridicule. Enfin, c'est surréaliste. Et la personne qui dirige... Il y a une polémique actuellement sur le sultan, là, comme quoi il aurait profité de son statut pour faire des petits contrats de pétrole, quoi. Voilà, on n'a pas confiance, c'est sûr. Mais après, en fait, c'est une polémique... entre est-ce qu'il faut y aller pour dénoncer ou est-ce qu'il faut ne pas y aller pour boycotter.
On connaît le poids des lobbies, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'il y a, dans toutes ces COP, il y a souvent beaucoup de lobbies qui sont là. Et ce qu'on craint, comme souvent, c'est que, voilà, il peut y avoir des beaux engagements de prix, mais pas de mesures véritablement derrière. Et on sait le poids des lobbies pour être dans le greenwashing, quoi. Voilà. Donc, on est quand même très inquiet. C'est important que les pays se réunissent, mais on est quand même assez inquiet sur ce qui peut en sortir, quoi. quelle confiance on peut accorder à cette COP.
En parlant de lobby, j'ai lu dans un article de l'Obs paru il y a quelques jours que c'était le cabinet de conseil bien connu en France, McKinsey, qui était présent et qui avait produit beaucoup de documentation à l'égard des Émirats Arabes Unis pour présenter et pour avancer des sujets qui sont présentés durant cette COP.
J'ignorais, mais quand on sait ce qui s'est passé avec McKinsey en France... Eh bien, voilà.
On parlait de lobby, c'est pas rassurant. Donc c'est pas tout à fait un lobby, ouais. Même si voilà, ils sont en position de force et de conseil. Je lisais une citation d'une source donc qui a assisté à des réunions que McKinsey appelle ouvertement et sans vergogne à abaisser les ambitions sur l'élimination du pétrole au sein même de la présidence de la COP28. Donc effectivement, c'est pas bien lancé cette histoire.
Hein, non, ça part mal.
Et donc dans ce cadre-là, quelles sont les actions que vous allez mener, les différents collectifs que vous représentez aujourd'hui, puisque vous en représentez plusieurs, on n'en a même pas parlé, on va pouvoir refaire un tour. Quelles sont les actions que vous allez mener ou que vous avez menées autour de cette COP?
La première action, c'est d'être présent, et on vous remercie. En fait, s'il n'y avait pas les COP, on ne parlerait peut-être pas du climat. Il y a déjà un effet.
Ouais.
Et moi, je suis là pour le collectif Action Climat 41.
Et les autres, Abel ?
Donc moi, je suis à Youth for Climate de Blois.
Ouais.
Suzette. J'ai lu tout à fait par hasard un article, alors je crois que c'était dans le magazine Reporter, sur des femmes en Suisse qui se sont mises en association Grand-mère pour le climat. J'ai lu cet article et je me suis dit, mais c'est génial, Grand-mère pour le climat. Alors, elles ont intenté un procès contre l'État suisse pour inaction climatique. Et c'était au mois de mars et le compte-rendu d'audience doit arriver au mois de décembre. Hein. On ne sait pas pour l'instant ce que ça donne. J'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est génial, Grand-mère pour le climat. Je pianotais, j'ai cherché, est-ce qu'il existe quelque chose comme ça en France? Et en fait, je suis tombée sur Grands-parents pour le climat. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé Grands-parents pour le climat.
Donc il y a Youth for Climate et Grandfather for Climate.
Voilà, moi je vais représenter Grands-parents pour le climat qui, en fait, sont en train de créer, de se fédérer en réseau européen. Donc il y en a un peu dans toute l'Europe, mais ça a SM déjà aux États-Unis, au Canada, etc. Et ils se réunissent justement le 3 décembre et ils appellent une marche à Bruxelles. Tous les pays de grands-parents pour... tous les... comité Grands-parents pour le climat qui existe en Europe. Et je me suis dit, mais c'est très bien, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de marche. Je me suis dit, il faut qu'on en fasse une. Et puis, on va se joindre à Grands-parents pour le climat. Et d'autant que j'ai vu qu'à côté, de chez nous, dans l'Indre-et-Loire, il y a un monsieur qui s'appelle Pascal Hugo et qui est le référent régional de Grands-parents pour le climat. Donc, je l'ai contacté, et j'ai eu des coordonnées donc sur Bruxelles avec lui, et des contacts, Et je me suis dit, c'est l'occasion de... ça m'a redonné envie de faire quelque chose, parce que j'avoue que depuis quelques temps, on a fait quand même plusieurs marches. Et puis, on se dit, il n'y a pas grand-chose qui bouge, c'est un peu décourageant. Mais là, ça m'a donné de la pêche. Et j'ai dit, on réorganise, et j'en ai parlé au CAC 41, et qui a dit, bingo.
Il y a aussi Extinction Rébellion qui va participer et qui nous aide bien à organiser les choses. On invite aussi à Balbéton. On a plein de petites organisations qui nous soutiennent. On va tous dans le même sens.
On voit qu'il y a une convergence effectivement des luttes, notamment sur ce sujet-là. Est-ce que il faut aller à Dubaï pour manifester au pied des endroits où se tiennent ces grandes réunions sur l'impact écologique, je remettrai pas au même niveau le voyage en vol commerciaux de certains militants qui se rendraient pour manifester et les grands jets privés de patrons et de chefs d'État qui s'y rendent aussi. Donc c'est pas la question, mais est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller sur place pour manifester les idées des contradictions que ça soulève? Abel,
Pour moi, il faut qu'il y en ait qui aillent là-bas.
Ouais.
Mais il faut aussi qu'on reste dans notre pays et qu'on soutienne, mais qu'on pousse nos gouvernements à agir aussi dans notre pays.
Mm-hmm.
Parce qu'il faut que la lutte elle vienne de partout. Et si ça vient que de Dubaï, enfin que de là où se passe la COP28. Pour moi, ça aura moins d'effet, et sachant que pas tout le monde pourra se déplacer, donc on aura moins de personnes mobilisées. Et aussi, ceux de Dubaï, du coup, comme il y a la COP28 qui se déroule là-bas, ils seront déjà touchés. Et en faisant les manifestations dans différents pays, on peut sensibiliser plus de personnes.
Donc l'idée, c'est d'être aux deux endroits à la fois pour justement maximiser les effets. Ok, oui, Estelle.
En venant, j'ai écouté La Terre au Carré où il parle justement de ça. Mm-hmm. Et il disait que la liberté de la presse est un petit peu mise à mal là-bas.
Tout à fait, oui. Mm-hmm. Oui.
J'ai vu, moi, j'ai lu quelque part hier, quoi, ou avant-hier, qu'effectivement, les scientifiques d'Extinction Rébellion, hein, scientistes d'Extinction, ils se déplacent là-bas. Ouais. Pour marquer le coup. Ils y sont déjà depuis plusieurs jours. Hein. Donc voilà, eux, ils se sont déjà déplacés.
Mmh. Mmh, d'accord, ok. Donc oui, l'idée, c'est d'être sur tous les tableaux, à la fois là-bas et aussi ici, pour susciter l'intérêt autour de vos différentes manifestations. Donc vous disiez effectivement que la liberté de la presse était malmenée. Il faut rappeler que, alors il y en a sans doute plusieurs, mais le plus connu est Ahmed Mansour, qui est emprisonné justement pour ses prises de position en faveur des droits de l'homme, qui est emprisonné depuis 2017 et condamné à 10 ans de prison pour avoir justement manifesté contre le gouvernement des Émirats Arabes Unis. Voilà, c'était pour le petit rappel, même si ces motivations ne sont pas uniquement liées au climat et aux politiques climatiques des Émirats. Y a-t-il quelque chose à rajouter?
Oui, moi je voudrais dire qu'en France aussi, la liberté de manifester, en tout cas, est vraiment mise à mal. Je sais qu'hier se déroulait à Niort un procès pour 9 inculpés pour avoir participé à une manifestation à Sainte-Soline, hein, manifestation qui était interdite. D'ailleurs, toutes les manifestations autour des mégabassines depuis quelques années sont interdites. Et en fait, le fait d'aller manifester, de dire qu'on ne veut pas de cette façon de produire, hein, de l'agro-industrie, parce que c'est ça, fait qu'on se retrouve devant les tribunaux. Et je crois qu'il risque une peine de prison de 5 à 12 mois. Hein, c'est ce qu'a requis, je crois, me rappeler le procureur. Donc en France aussi, voilà, quand on fait des actions, c'est pas simple non plus. Et les gens qui disent haut et fort que ça va pas le climat, parce que voilà, c'est les problèmes de sécheresse, les problèmes d'eau, il faut répartir l'eau, il n'y a pas de raison que l'eau soit accaparée par certains, eh bien, ça pose problème. En France, ça pose problème. Et les lois sont faites de telle sorte que, pour l'instant, au niveau des tribunaux, c'est compliqué. Les tribunaux, ils appliquent le droit. Et nos lois, elles ont été faites antérieurement avec cette question de la propriété privée, etc. Et du coup, voilà, on est un peu dans des... Je ne sais pas comment dire, peut-être des impasses. Enfin, juridiques, c'est compliqué.
Oui, je voulais dire que ce qu'on fait là, nous, c'est une mise en action. Et on a besoin de ces mises en action pour sortir de l'éco-anxiété. On a aussi besoin de se nourrir, d'avoir de la connaissance pour un peu argumenter. C'est pas facile parce que c'est quand même un sujet très complexe. Et ce qu'on peut observer quand même depuis très peu de temps, c'est très très récent, c'est quand même on sort du climato-sceptisme. On n'entend plus de personnes remettre en question le réchauffement climatique, le dérèglement climatique. Et ça, c'est... Il y a eu un pas de fait. Par contre, qu'est-ce qu'on en fait? Pas forcément grand-chose. Il y en a qui en profitent quand même pour faire encore du profit ou du greenwashing, mais... C'est quelque chose que je voulais dire.
Oui, Abel.
Bon, on n'en entend plus parler du climato-sceptisme. Je sais que moi, il y a des personnes que je connais qui ne croient pas au dérèglement climatique, qui pensent que les scientifiques du GIEC sont incompétents et qui font ça que pour... je sais pas, enfin, c'est pas mes arguments. Moi, je pense pas à ça du tout, donc c'est compliqué de résumer ce qu'il dit. Mais il y en a encore qui sont climato-sceptiques, mais qui le disent pas... Enfin, qui ne vont pas nier tout ce qu'on dit.
Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, malgré tout, il y a sans doute beaucoup moins, en tout cas à la marge, quelques personnes qui n'y croient pas. Mais par contre, ce qui s'est développé ces derniers mois et peut-être 2-3 ans, quoi, c'est qu'on va pouvoir, avec les technologies, résoudre tous les problèmes. Voilà, donc il n'y a pas de problème puisque la technologie va nous apporter...
Le technosolutionnisme.
Le technosolutionnisme va nous apporter les solutions. Donc voilà, et ça se développe beaucoup. Et les entreprises, les grosses entreprises jouent beaucoup sur le greenwashing. Quand on pense que cet été, alors c'était au MEDEF, M. Pouyanné a un peu envoyé balader M. Jean Jouzel, qui était... le précédent président du GIEC, hein. en disant oui, ben, d'accord, c'est bien le climat, il y a des problèmes. Enfin, la vie réelle, c'est la vie réelle, voilà. Mais la vie réelle, c'est celle qui est en train de nous tomber dessus, avec les canicules de plus en plus fréquentes. On en a vécu quand même bien cet été. Les problèmes de sécheresse, hein, voilà, qui s'aggravent. Suivi des problèmes d'inondation, hein, on a eu quand même les tempêtes avec les inondations et le Pas-de-Calais. J'ai entendu qu'ils avaient été obligés, il n'y a pas si longtemps encore, de faire venir des pompes de Hollande pour pouvoir pomper, parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à évacuer toute l'eau qu'il y avait.
Qui était tombée,
ouais. Donc, c'est quand même des choses graves. L'an dernier, en Allemagne, il y avait eu des grosses inondations. On en a eu là dans les Alpes, les glaciers fondent, c'est quand même, enfin, c'est ça la vie réelle. C'est ce qui est en train de nous arriver, petit à petit, dont on n'a pas forcément, enfin tout le monde n'est pas touché de la même façon, même si la canicule cette année, en fait, tout le monde y a été, on a eu à différents moments. Mais voilà, et les gens ne réalisent pas encore forcément que c'est gravissime. J'ai assisté à une conférence à l'INSA avec Heidi Sevestre, une glaciologue, qui nous a dit « mais 1 degré à Paris, c'est 7 à 8 degrés au pôle ». Elle est chercheuse, hein. Elle était venue au premier sommet international pour les pôles et les glaciers. Et elle nous a dit, elle vit là-haut au Svalbard, et elle nous a dit « c'est catastrophique ce qu'il constate, hein. C'est vraiment catastrophique ». Je terminerai tout à l'heure avec un poème qu'elle nous a lu. J'aimerais conclure avec ça parce que je trouvais que c'était fort ce qu'elle nous a dit.
Mmh. Oui, je voulais aborder un sujet. C'est lors de la dernière COP, il avait été décidé d'indemniser les pays les plus vulnérables. En fait, c'est ceux qui produisent le moins de gaz à effet de serre, mais qui subissent de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique. Et donc, il va falloir penser à cette solidarité. Alors là, cette COP-là va prévoir... comment indemniser ces pays financièrement. Mais on peut aussi se poser la question de comment on va accueillir les réfugiés climatiques, parce que quand on voit actuellement comment on accueille les réfugiés politiques...
Est-ce que l'indemnisation dont vous parlez, Estelle, est-ce que ça ressemble pas... alors, je n'ai pas les dossiers que vous avez peut-être sous les yeux, mais est-ce que ça ressemble pas à un droit à polluer, à tout hasard?
C'est une bonne remarque, mais disons que... qu'on le fasse ou pas, on pollue. Donc autant...
Et ça remet si en question le fait que ce sont les pays les moins pollueurs, effectivement.
On peut réparer ou créer des recréer des cadres de vie, des écosystèmes. Il y a peut-être des choses à faire quand même. Parce que là, ça représenterait 500 milliards de dollars par an. C'est même impossible. Mais voilà, ils sont censés travailler là-dessus, là, à cette COP.
Ce qu'on sait, c'est que le coût engendré par toutes les catastrophes qui nous arrivent, je parlais des inondations, etc. Je ne vais pas parler des feux, mais enfin, l'an dernier, quand même, on a eu aussi ce qu'il fallait en France. Hein. Mais tous ces feux qu'il y a eu au Canada, en Australie précédemment, etc., c'est énorme, le coût de tout ça, hein, le coût financier. Cette perte de biodiversité, on sait que la biodiversité, elle est importante. Sans biodiversité, on n'existe plus. Hein, après. Donc, tout est lié. Vraiment, tout est lié et on a besoin que les dirigeants prennent ça au sérieux et qu'ils écoutent les scientifiques. Les scientifiques ne sont pas beaucoup écoutés. Au mois d'octobre, quand il y a eu les manifestations contre l'autoroute A69 à Toulouse, Valérie Masson-Delmotte, qui était présente avec Christophe Cassou, qui est un autre membre du GIEC, ils se sont carrément fait gazer quoi, avec du lacrymo. Alors qu'ils étaient en train de faire une conférence pour informer. On a quand même du mal à comprendre comment réagissent les politiques. Quoi. Enfin, ils ont des œillères, ils ont je ne sais pas quoi. Enfin, mais en arriver à ce que... Avoir une attitude comme ça vis-à-vis des scientifiques. Le GIEC, c'est international. Ce n'est pas juste quelques personnes qui ont fait dans leur petit coin quelque chose. Enfin, voilà, il y a un consensus aujourd'hui. Alors, oui. Voilà.
Parlant de consensus, la dernière, j'ai l'impression, COP, en tout cas, qui avait marqué les esprits, c'était donc la COP21 ici à Paris en 2015, même avec des accords non contraignants qui n'ont pas eu beaucoup d'effet jusqu'ici, elle avait pu marquer le coup malgré tout. Est-ce que cette COP peut engager des choses? Est-ce qu'il y a de l'espoir à retirer de cette grande réunion là, qui se déroule au Moyen-Orient, au Proche-Orient?
Bah, pour moi, c'est toujours possible de tirer des avantages
de ces grandes réunions.
Mais après, ça fait 28 ans que les pays se réunissent, enfin les dirigeants. Et moi, je reviens à douter à ce que leur capacité à prendre des mesures nécessaires pour réduire leur dérèglement climatique et pour arriver à quelque chose.
Surtout quand on voit effectivement où c'est organisé et par qui c'est organisé.
Alors c'est vrai que cette COP, pour l'instant, c'est quand même le point auquel on se raccroche. Hein. 1,5 degré maxi, en dessous en tout cas de 2. Et ça reste le point qu'on doit viser. Et donc elle est forte, cette COP 21 qui a eu lieu à Paris. Les engagements étaient forts. Alors c'est vrai qu'on voit bien qu'on a du mal à... Et en France, hein, on est bien loin des objectifs qui avaient été fixés. Hein. Mais ça reste quand même ce point visé pour ne pas dire « bon, bah, on a dépassé, alors maintenant on va faire que de l'adaptation ». Non, il faut réduire les émissions de CO2. Donc il faut garder en ligne de mire, je pense, cet objectif.
On en revient au fait que ce sont des grands moments de communication qui permettent toujours et encore de rappeler cette volonté de rester sous les deux, même quand bien même ça semble de plus en plus lointain difficile comme objectif. Mmh. Estelle, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose.
Non, c'était juste pour faire le constat... donner les chiffres de l'ONU. Les engagements climatiques actuels, ils ont mené à 2% de baisse des émissions mondiales pour 2030 par rapport à 2019, au lieu des 43% préconisés. C'est pour dire qu'on est très loin, mais c'est vrai que cette COP21, elle a posé la limite de 1,5 degré maxi. Après, on sait qu'on n'y arrivera pas.
En fait, pourquoi 1,5 degré? Parce que c'est vraiment la limite pour que la Terre reste vraiment habitable avec un système stable. Parce que c'est ça, c'est un problème de stabilité qui est nécessaire pour que le monde puisse, la vie, le vivant puisse être poursuivre. Quoi. Et au-delà, après, ben, on sait qu'on a vraiment des déséquilibres dans les écosystèmes et que on ne sait pas toujours ce que ça va donner derrière, quoi. Et plus on va monter en température, plus on va avoir quelque chose de très instable, avec des fois des boucles de rétroaction dont on ne sait pas trop comment ça va intervenir. Mais voilà, ça va être très difficile de s'adapter.
On sait que on avait jusqu'à 2015, je crois, pour arrêter nos émissions, pour ne pas dépasser les 1,5 degré. Mais on sait que maintenant, c'est plus possible de revenir en arrière. Donc notre but, c'est juste limiter notre impact au maximum. Enfin, le juste, c'est déjà énorme. Et limiter et éviter que ça s'empire de plus en plus.
Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez... Que vous voudriez prolonger, dire avant la conclusion de cette émission?
Oui, moi ce que j'aimerais dire, c'est qu'au niveau local, c'est important qu'on fasse des choses. Et c'est aussi pour ça qu'on va manifester, pour demander au niveau local plus de transports en commun, pour que les gens n'aient pas besoin de prendre leur voiture. Donc, dans le département, il y a très peu de transports en commun entre, par exemple, Vendôme, Blois, Romeaux.
Vendôme-Romorantin, effectivement, n'existe pas.
Voilà. Il nous faut vraiment du transport en commun décarboné avec des bus électriques. Hein. Il nous faut beaucoup plus de pistes cyclables parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire du vélo. Ne serait-ce que dans Blois, des gens veulent faire du vélo, mais c'est pas sécure. Il y a trop de pistes cyclables qui sont à contresens. Alors, on a une belle voie, hop, on tombe, il n'y a plus rien. Enfin, c'est dangereux. Et moi, je fais partie, par ailleurs, de Vélo 41. On apprend à faire du vélo à des mamans. Et les mamans disent, non, mais les enfants, on ne peut pas les mettre sur les vélos, hein, parce que c'est trop dangereux. Il y a trop d'endroits où c'est dangereux. Donc ça, c'est important. Qu'on ait plus de vélos, plus de pistes cyclables, moins de voitures, parce que les voitures, ne serait-ce que l'été, hein, les moteurs chauffent. Alors, elles sont limitées à 20 à l'heure ou 30 à l'heure en centre-ville, mais ça réchauffe l'atmosphère. Donc, il faut laisser les voitures en dehors des villes. Il faut arrêter d'abattre les arbres à Blois. On en a beaucoup abattu. La gare, on a beaucoup abattu d'arbres. On a une gare toute minérale et c'est quand même vraiment dommage. Et l'été, c'est infernal hein, sur cette esplanade de la gare. Là, on crève de chaud. Hein. Et on sait que les canicules vont être de plus en plus fréquentes. Donc, il y a beaucoup de choses à faire au niveau local. Et puis, l'isolation des maisons, parce qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes. On voit avec la crise énergétique, hein, les factures explosent. Et puis, l'été, on a trop chaud dans les logements. Donc, tout est lié. Et au niveau local, on peut faire aussi beaucoup de choses. Local, départemental, régional.
Ouais. Estelle ?
Non, c'est juste, il faut déjà avoir l'intention de changer, de faire changer les choses. Déjà, c'est un premier pas. Il ne faut pas culpabiliser les gens, parce que c'est souvent ce qu'on nous reproche à nous. Si déjà on a l'intention, forcément, on change par petits gestes. Et effectivement, tous les petits gestes pour l'environnement, ce n'est pas perdu. Parce que tout additionné, c'est le petit colibri. Et à la fin, on pourrait arriver à 25% du chemin quand même, juste par nos petits gestes. Effectivement, isoler les maisons. Il y a des aides de l'État, c'est long, je sais de quoi je parle, mais c'est possible pour isoler les maisons, changer son mode de chauffage, c'est par là que ça passe. Les politiques, on crache beaucoup dessus, mais sans les politiques, on n'y arrivera pas. Les politiques publiques, effectivement, faire les routes, mais toutes les politiques ont des impacts, donc c'est important d'y participer. Les entreprises ont un grand rôle aussi. Dans leur choix, alors pas juste pour faire joli et pour mieux vendre, mais de façon sincère, parce que et puis l'agriculture aussi. Voilà, tout ça additionné, on peut au moins limiter la casse et végétaliser à fond partout.
Abel, un mot pour conclure avant qu'on écoute le poème que vous vouliez avec lequel vous vouliez terminer. Si tu veux rajouter quelque chose.
Vous avez résumé que c'est enfin ce que je voulais dire. C'est tous ensemble qu'on va y arriver. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petites victoires non plus. Donc, pas n'importe quoi, mais par exemple, arrêter une fois par semaine de manger de la viande, par exemple. Et puis, peut-être que si ça ne vous dérange pas tant que ça, dans quelques mois, vous pourrez faire 2 jours. C'est juste un exemple, mais pour continuer sur cet exemple, on ne vous demande pas d'arrêter de manger de la viande, juste de manger un peu moins, mais du coup mieux. Enfin, moi, je mange de la viande 1 à 2 fois par semaine, mais du coup, j'essaye de manger de la viande locale, où je sais comment les animaux ont vécu, et vraiment pas acheter n'importe quoi. C'est la nourriture, parce que c'est aussi quelque chose qui est pas mal... Enfin, il y a beaucoup, ça a pas mal d'impact vu que c'est vital et que on en a tous besoin. Mais il y a plein d'exemples comme ça.
Très bien, merci Abel. Et puis donc, vous vouliez conclure avec un poème que vous avez entendu.
Oui, j'avais envie de conclure avec ce poème qui était la conclusion de Heidi Sevestre dont j'ai parlé, cette glaciologue là qui est venue faire cette conférence le 10 novembre à l'INSA à Blois. Alors voilà, ce poème, c'est « Il est 3h23 du matin et je suis réveillée. Mes arrière-arrière-petits-enfants ne me laissent pas dormir. Dans mon rêve, mes arrière-arrière-petits-enfants me demandent « Et qu'as-tu fait pendant que la planète était saccagée ? Qu'as-tu fait quand la Terre s'effondrait ? Tu as sûrement fait quelque chose quand les saisons ont commencé à s'en mêler. Quand les mammifères, les reptiles, les oiseaux disparaissaient tous. Êtes-vous descendu dans la rue pour protester quand la démocratie était violée ? Qu'avez-vous fait une fois que vous saviez ?
Merci Suzelle, merci Estelle et merci Abel de nous avoir parlé de cette COP 28 et des enjeux qui en découlent. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Studio ZEF à la page de La Chose Commune. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Merci à vous trois, à bientôt.